Bonjour Jean Salem, professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du Bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps, paru aux éditions Flammarion dans la collection Champs Essais, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « Le bonheur est-il toujours une idée neuve ?»
Je ne sais pas comment commencer cette interview, si je voulais simplement débuter d'une manière très anecdotique, je pourrais dire « Êtes-vous bien heureux ?»
C'est une très bonne question, la question que vous n'osez pas poser. Évidemment, ça peut dépendre du moment de la vie, du matin qui précède, etc. Je dirais deux choses. Un philosophe, dont je ne partage pas nécessairement toutes les idées, mais qui est un maître, un ancien professeur et un ami, Robert Misrahi, après une vraie catastrophe privée, le décès de sa femme aimée, avait participé à une conférence sur le bonheur. Une de plus, à Menton. Et moi aussi, j'y avais ma place. Et sa souffrance se voyait même dans ses traits, dans les traits de son visage. Et je lui ai dit, vraiment sans rire, et il l'a bien pris, je crois, « Vous êtes heureux, indéniablement. Vous êtes ravagé, non. Sinon, on n'est pas heureux. Vous êtes plombé par le chagrin, mais vous êtes heureux. » Alors, le synonyme, moi qui ne suis pas professeur de bonheur, et vous qui me demandez est-ce que c'est le meilleur mot, heureux, synonyme qui s'impose, l'adjectif qui s'impose, je dirais, c'est serein, c'est blindé. Épicure, sur qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai écrit quelque part qu'il propose une sorte de blindage pour celui qu'il appelle le sage, c'est-à-dire celui qui sait vivre, qui fait avec la nécessité de mourir, qui fait avec la nécessité de voir des amis partir également dans la même direction, qui fait avec toutes nos limites, et qui connaît la limite des désirs, qui sait qu'un désir infini est de toute façon source de malheur si on ne prend pas conscience qu'il faut acquérir. C'est mon dernier mot de réponse, c'est promis. Des techniques d'acceptation de l'inévitable. Et je dirais que c'est ça la sagesse des anciens. Sinon, on est toujours, comme notre société nous y pousse encore plus que d'autres, dans le manque, dans le besoin, dans ce qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas, ce qu'on devrait avoir et que l'autre a. Donc voici, voilà plutôt les adjectifs que je propose. Serein. Épicure parle d'ataraxie, absence de troubles, blindé, bien campé, solide.
Est-ce qu'on peut avoir une lecture de Marx, surtout ?
Je dirais avec une pincée d'humour ou de modestie pas trop excessive. On m'invite aussi en l'honneur de mon père personnel, qui s'appelait Harry Salem, et qui était plus connu sous le nom d'Henri Alleg, pseudonyme de journaliste, et qui est mort le 17 juillet dernier. Donc, bien sûr qu'il y a un lien entre ce que je dis à propos du bonheur et le fait que j'ai été, si j'ose dire, dans ma famille, tout petit déjà, de l'engagement militant, du bonheur de lutter, du bonheur de résister, de l'envie de transformer le monde, et du bonheur ou de l'indignation qui nous pousse à nous révolter contre l'injustice ou les crimes barbares qui aujourd'hui sont assez fréquemment répandus. Donc, enfant, quand je vivais dans un monde bipolaire, on dit ça comme ça aujourd'hui, quand il y avait une presse et presque un État dans l'État qui émanait de partis communistes puissants, il est évident que, je dirais, même les chiens écrasés, les petits faits divers, un ouvrier qui tombe d'un échafaudage, ça arrive parfois, tel ou tel, comment on dit maintenant, lutte interraciale ou affrontement ethnique, tel ou tel fait divers révélant la misère sociale, l'insuffisance de services publics, etc. Tout ça était attrapé dans la grille de lecture des militants, communistes en l'occurrence, ou d'extrême-gauche de façon plus générale. Et tout ça n'était pas sans rapport avec la théorie de Karl Marx qui prétend donner quelques recettes pour changer le monde, en tout cas au XIXe siècle. Et sa théorie peut toujours servir à l'évidence, vu que le capitalisme en est revenu à certains de ses principes. Les enfants travaillant dans les mines, c'était pas seulement en Angleterre au XIXe siècle, c'est au XXIe siècle en Ukraine, qui est pourtant pas si loin de la France. Alors, est-ce que Marx peut expliquer tout ? Bah, du point de vue de la science historique, du point de vue des réalités sociales, ça donne à l'évidence un canevas, une clé, une grille d'explication, pour le moins assez large, j'en suis toujours convaincu. Maintenant, les pensées marxistes sur la mort, je ne m'en connais pas, parce que d'abord, Marx n'a pas écrit le traité de philosophie qu'il a projeté un jour d'écrire, puis qu'il n'a jamais écrit. Il y a une philosophie marxiste qui se développe surtout dans des ouvrages d'Engels, son compère, qui n'a pas travaillé tout seul, contrairement à ce qu'on dit. Marx, par exemple, a écrit les chapitres d'économie qui figurent dans l'anti-During, ouvrage signé d'Engels, et relu le reste. Mais enfin, il y a des problèmes qui dépassent évidemment les luttes politiques, l'explication économique du capitalisme donnée au XIXe siècle par celui que vous dites. Et en particulier, la question de notre finitude, de la mort. Et quel est le lien, non pas pour dire comme Louis XIV, l'État c'est moi, mais pour répondre, le lien c'est moi qui vous parle, Jean Salem. Ben, le lien, c'est que dans les années 85-6, au lieu d'inscrire ce que j'avais cru faire pendant un moment, le 6000e sujet de thèse de doctorat sur Marx, c'était une époque où tout semblait s'effondrer, du moins dans le marxisme occidental. Ça commençait d'être lézardé du côté du socialisme réel à l'est de l'Europe. Eh bien, j'ai pratiqué, je dirais, une sorte de repli digne et rentré la tête dans les épaules, en m'intéressant aux matérialistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure, Lucrèce, qui disent que tout est fait d'atomes et de vide, que les dieux, s'ils existent, Épicure pense qu'ils existent, sont faits d'atomes, sont situés en dehors du monde et ne sont absolument pas concernés par ce qui se passe dans nos vies, n'interviennent en rien dans le monde, et qu'il n'y a rien après la mort. Et puis comme Marx, d'ailleurs, c'est pas ça qui m'y a poussé, mais ça signale qu'il y a un rapport. Marx, jeune, à 23 ans, a rédigé sa thèse de doctorat sur ces gens-là, qui sont des atomistes, des matérialistes de l'Antiquité, mais en plus, pour ce qui est d'Épicure et de son disciple Lucrèce, des hédonistes, des philosophes du plaisir. Alors, bref, comme tout ça a un lien, comme tous ces gens-là, les épicuriens, les anciens, sans être loin de là des farouches révolutionnaires, ont énoncé, développé des thèses d'abord hypermodernes et d'autre part matérialistes, c'est-à-dire qui ont comme un air de famille avec ce qui court dans la philosophie implicite ou pas implicite de gens comme Marx, ben, ça m'a permis de travailler très sérieusement pendant une douzaine d'années de façon totalement folle même sur ces personnages. Et puis, moi prenant de l'âge et voulant changer un petit peu d'obsession et la situation devenant moins ennuyeuse, on a pu de nouveau parler un peu plus librement de Marx. Et on a monté, avec pas mal de collègues, un séminaire Marx au XXIe siècle à la Sorbonne, qui marche très très bien, et dont on peut voir en ligne les conférences, puisque c'est tourné en vidéo. Je parle de ça, autopromotion non déguisée, dans un livre où je rassemble pas mal d'expériences de ce genre et des textes un peu disséminés jusque-là, qui vient de sortir chez Delga, qui s'appelle « Sagesse » au pluriel, pour un monde disloqué.
— Mais il y en a plein qui vous ressortez.
— Oui. Puis les atomistes de l'Antiquité. Alors ça, c'est une sorte de synthèse de tout ce que j'ai raconté sur Démocrite, Épicure, Lucrèce, de ce qui a été développé dans des livres parfois techniques, épais. Les atomistes de l'Antiquité, je suis content que ça soit ressorti chez Flammarion dans la collection « Champs ». Dans ce livre sur le bonheur, qui a pour titre un peu ironique « Le bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps », j'ai pris mon bien chez beaucoup de gens qui ne sont pas du tout Marx et qui ne sont pas marxistes, sinon ça se saurait, qui peuvent s'appeler Maupassant, Tolstoï, qui peuvent s'appeler les anciens déjà nommés, notamment la tradition épicurienne. Mais disons que je progresse en trois temps. De la considération du simple bien-être corporel, si on pense qu'on est fait de corps et qu'on est un peu des animaux, ça doit avoir sa place dans une réflexion sur le bonheur. Donc je parle du fait d'être au monde de façon heureuse. Ça peut être lézarder sur une plage ou ça peut être lézarder sur une petite barque, voir ce que dit Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire. Il y a dans la cinquième promenade un très beau passage. Donc je passe de ce bien-être presque animal, celui des petits-enfants. Épicure dirait, vous voulez avoir une idée du bonheur, vous regardez les petits-enfants, les petits-petits de 2-3 ans, pas ceux qui peuvent être obsédés par la mort déjà à 5 ans. Ils courent au plaisir, ils fuient la douleur. Parfois, ils se font mal, ils pleurent, et dans la seconde d'après, ils rient de nouveau. Regardez les petits-enfants ou les animaux, dit Épicure. Dans un deuxième temps, je m'élève à quelque chose d'un petit peu plus humain et plus noble, diraient les spiritualistes et les gens sérieux. Épicure lui-même, qui n'est pas ma Bible, mais qui a fait ce travail-là tout seul et de façon géniale, parle d'un plaisir qu'il appelle stable, en jargon catastématique, qu'il n'oppose pas du tout, mais qui distingue de ce qu'il appelle le plaisir en mouvement. Manger, boire, faire l'amour, etc. C'est probablement à ça qu'il pense. Et le plaisir stable, c'est par exemple le plaisir de l'amitié, ou c'est le plaisir de la philosophie, en ce sens que l'étudier et surtout se l'incorporer, se transformer par les études philosophiques, ce sont des plaisirs longs, durables, pas de l'instant. Bref, je parle de toutes ces affaires qui tournent autour de cette notion d'ataraxie. Encore une fois, tarakos en grec signifie trouble, donc absence de trouble. Et la première des terreurs, ou le premier des désirs infinis, c'est un peu la même chose, qu'il faut savoir éradiquer, dont il faut savoir couper le cou, c'est la crainte de la mort, terreur, ou le désir d'éternité, qui n'en est que l'envers. Et il y a toute une sorte de technique, encore une fois, d'accoutumance à l'inévitable. Je vais quand même donner 2-3 exemples. Lucrèce invoque une dizaine d'arguments. Tout d'abord, il ne faut pas frissonner d'horreur en pensant que les oiseaux de proie et les bêtes fauves vont déchiqueter notre cadavre. On peut. La tripe qui fait semblant de raisonner, la tripe nous porte à raisonner comme cela. C'est horrible. On va être respiré. Des atomes venant de nous vont être humés, mangés par d'autres vivants, broyés par des forces de la nature inertes, comme les vents ou les marées. Oui, mais dit Lucrèce, tu fais une sorte de film. Il n'emploie évidemment pas ce mot-là, mais c'est l'imagination qui délire. Tu te penses que dans la mort, il y aura ton cadavre étendu et un double, un numéro 2, toi, numéro 2, en train de pleurer, penché sur ton cadavre. Dans la mort, il n'y aura plus rien. Autre argument, tous les grands hommes sont morts. Démocrite est mort, Homère est mort, les grands généraux sont morts, Épicure lui-même, tu te rends compte, est mort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le catalogue des illustres défunts. C'est une petite couche de plus pour faire accepter qu'on aimerait bien être le seul à avoir l'éternité, mais c'est pas comme ça. Et vous avez une sorte d'accumulation de choses, d'arguments de ce genre, qui vous guérissent de la fièvre. La philosophie est un analgésique, un antalgique, un antidouleur, un fébrifuge. Et on peut passer ensuite à d'autres choses. Ce n'est pas seulement un discours sur la mort, évidemment. C'est un discours sur les limites du désir qui est très très moderne dans notre monde de publicité effrénée, de jalousie mutuelle, de rivalité. Et donc après avoir parlé du bien-être de façon, comme vous voyez, pas trop politique, en prenant mon bien chez des bons auteurs qui peuvent être des écrivains, littérature. Après avoir parlé de ces affaires d'équilibre, de sérénité que j'ai annoncées tout à l'heure, en prenant également des choses chez tel ou tel romancier que j'aime, et je passe dans un troisième temps au bonheur de la lutte, au bonheur de résister, au bonheur de défendre une cause et de gagner souvent des amitiés, voire des amours, dans ce genre de combat.
Jean Salem, professeur de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du Bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps, paru aux éditions Flammarion dans la collection Champs Essais, est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes, l'invité du magazine. Thank you.
bonheur de résister, au bonheur de défendre une cause et de gagner souvent des amitiés, voire des amours, dans ce genre de combat. Et je puise, pas seulement chez des auteurs très très systématiques, un petit peu étouffants à digérer, bref, pas seulement chez des philosophes, au langage éventuellement un peu obscur, mais je trouve des pages de Jorge Amado, qui dans Le Civil fut d'ailleurs militant communiste pendant un long moment, le grand romancier brésilien, dans Bahia de tous les saints, il y a des pages sur la conversion d'une sorte de petit malfrat à la lutte syndicale et à sa noblesse, quand elle est mise au service, et c'est souvent le cas d'une juste cause. Je prends des pages de Neruda, puisque l'Amérique latine fourmille de belles pages sur l'engagement militant, sur le bonheur de lutter. J'invoque aussi, puisqu'on me fait la gentillesse de le mettre à l'honneur à l'occasion de ma venue, ou l'inverse, où je viens pour le mettre à l'honneur, j'invoque des passages de La Question, le petit livre dans lequel mon père raconte comment, si j'ose dire, il a vaincu la torture, ou en tout cas, il a gagné contre ses tortionnaires, tout en étant évidemment victime. C'était quand même ça la première chose qu'on remarque en lisant le livre, de sévices absolument barbares pendant la guerre d'Algérie.
Henri Alleg, bonjour.
Bonjour.
J'avance dans l'histoire. Vous êtes arrêté en 57, et là, vous allez connaître la torture. Et c'est l'objet de votre livre que vous écrivez en prison.
Oui. Alors, j'écris ce livre en prison, naturellement, des écrits de ce genre, et même tout écrit, à part les lettres aux familles, était interdit dans la prison. Par conséquent, ça a été un travail de clandestinité à l'intérieur même de la prison.
Pascal, comme des tas de gens, ont fait remarquer que chacun cherche le bonheur. Maintenant, si on veut donner une définition, c'est compliqué, parce que pour beaucoup de gens, c'est très différent. Quod capita, tot sensu. Autant de têtes, autant de significations, de définitions du bonheur. C'est d'ailleurs un problème qui, en politique, est important à prendre en compte. On disait, quand on commençait, tout en restant quand même en gros à gauche, et même tout en soutenant en gros quand même ce qui se passait dans le camp du socialisme réel en Union soviétique, comme le président Mitterrand, si vous relisez ses écrits de 1970, pour un socialisme du possible, vous avez trois pages très laudatives à propos de ce système qu'ensuite ses amis ont comparé au nazisme au minimum. Mais on disait souvent, quand on commençait à critiquer, parfois à juste titre, bon, on peut quand même pas faire le bonheur d'un peuple contre son gré. Si certains veulent traficoter et veulent amasser de l'argent en vendant des blue jeans, est-ce que c'est écrit dans le ciel que l'État doit interdire ce genre de trafic ? Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai eu une sorte de découverte. Venant d'une famille communiste, un jour, on m'a fait remarquer que certains aiment bien tenir un magasin de chaussures. C'était l'exemple précis d'une amie. Et j'ai été obligé d'être convaincu que nos valeurs, le livre, tout sauf le commerce, et je ne sais quoi encore, l'étude, le respect de l'étude comme de quelque chose de sacro-saint, bah, évidemment, les gens n'ont pas tous cette même définition du bonheur. Et certains s'en portent très bien. Deuxièmement, dans ce que vous dites, je relève le lien entre la psychologie individuelle et les autres. Puisque je le cite dans mon livre à deux ou trois reprises, sans avoir l'air obsédé par la figure paternelle, je dirais que celui qui n'a pas parlé sous la torture et qui explique, sans grands mots, hein, c'est un texte très sec, classique, La Question, ça décrit le scandale. Il ne geint pas. Mais enfin, il explique que, avec les cicatrices, ou plutôt les traces des plaies, des coups, se promenait torse nu dans la prison et voir les regards de connivence, d'admiration, il n'emploie pas le mot, mais c'est l'idée, des autres détenus qui le saluent avec respect. Mais évidemment, tout ça, ça a un lien. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, ceux qui ne vous disent pas qu'on va brûler dans les flammes de je ne sais quel enfer, ça c'est une version chrétienne, mais enfin on va être puni par les dieux. Déjà des châtiments infernaux, évidemment, chez les anciens. Thank you. déjà des châtiments infernaux, évidemment, chez les anciens. Ceux qui disent simplement que la moralité, ça consiste à faire des actions qui font que plus tard, le lendemain matin, par exemple, on va pouvoir se regarder dans une glace, comme on dit familièrement. On aura toujours le respect de soi-même. On évitera l'aïdos, qui en grec signifie beaucoup de choses, mais en particulier la honte. Démocrite dit ça. Bah, c'est là que je trouve le lien. Il y a beaucoup, beaucoup de situations historiques qu'on ne voit pas beaucoup dans nos télévisions stupides d'aujourd'hui, mais ça se passe dans le monde, dans les dizaines de conflits ouverts, hélas, qui existent en ce moment, où on est mis en position soit de garder le droit d'être un homme digne, soit d'avoir une attitude que les autres, mes frères, mes parents, mes amis, pas seulement les autres très éloignés, considéreront comme dignes ou indignes. Donc voilà le lien, je crois, entre l'affaire personnelle et la lutte collective.
Pour reprendre l'exemple, ça voudrait dire que quelqu'un qui va craquer sous la torture aurait perdu sa dignité. C'est donc mettre une responsabilité sur quelqu'un qui, au fond, est une victime.
Bien sûr.
C'est comme ça qu'on pourrait l'entendre.
Bien sûr. Non, je ne vais pas être assez ridicule pour dire ces choses qui pourraient se déduire de ce que je viens de dire, je le reconnais. Non, ce que je sais, c'est qu'il y a une ou deux figures, puisque j'évoque la guerre d'Algérie, de gens qui étaient des combattants, des courageux, des gens qui ont essayé de faire quelque chose, qui ne se sont pas cachés, qui ont été pris. Et il y a une ou deux figures de personnes qui ont parlé sous la torture, qu'on voit très très souvent dans les films sur cette affaire, battant leur coulpe, disant que chaque jour de leur vie a été traversé par l'idée du suicide, témoignant de ce que, évidemment, la vie leur a été volée par ce moment d'humiliation absolue, ce moment où ils ont perdu leur dignité d'homme, par force et sous la contrainte, sous une contrainte tout à fait insupportable. Donc, bien évidemment, je serais ridicule de condamner des gens qui se sont comportés, peut-être comme moi-même je me comporterais, si j'étais dans cette situation. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça, tout petit, déjà, je baignais dans une ambiance héroïque, il y avait un héros dans la famille, les gens nous renvoyaient cette image, et il va de soi que j'ai utilisé ça tout à l'heure, pas pour condamner les nombreux malheureuses victimes qui ont craqué. J'utilisais ça pour dire voilà le lien entre l'envie de résister qu'ils ont tous eu. Il se trouve que j'en avais un qui était proche qui a pu mener cette envie jusqu'à son terme. Et d'autre part, la lutte avec les autres. Autrement dit, c'est les présentations médiatiques, comiques, ridicules qu'on nous inflige qui vous parlent toujours de fanatiques, de robots qui obéissent au parti ou à je ne sais quelle cause. Bien sûr que ça existe, le fanatisme, mais la foi collective vous impose, d'après ce qu'on m'a dit, ça concerne mon père et pas moi, des comportements qui sont inévitablement ceux que vous savez qu'il faut avoir pour rester un homme parmi les hommes. Pour ce qui est de celui dont j'ai beaucoup parlé, il a lutté contre la criminalisation du communisme à partir des années 90, puisque jusqu'au Parlement européen, vous avez des projets de Nuremberg du communisme et autres plaisanteries qui consistent à faire croire que le socialisme réel, c'était le nazisme. On a quand même multiplié par 40, je dis bien par 40, en l'espace de 5 ou 6 ans, dans les années 1975, le nombre des victimes imputées à la répression stalinienne en Union soviétique. Donc c'est un détail, ça doit avoir rapport avec une propagande mondiale hallucinante, un immense bobard qui fait qu'un sondage fait vers 1985 prétend avoir ce résultat que voici. Plus de la moitié des jeunes Français pensent rester assis que l'Union soviétique a perdu par hasard, comme par hasard, 30 millions, par mégarde, 30 millions de ses citoyens étaient alliés de l'Allemagne nazie. Elle a perdu 30 millions de ses citoyens pendant la guerre contre l'Allemagne nazie. Mais le bourrage de crâne est tel que la majorité des jeunes Français, à qui on enseigne de moins en moins l'histoire, ne pensent pas vraiment ça. Honecker, dont vous avez parlé, dirigeant d'Allemagne de l'Est, oui, bien sûr, personne ne sait qu'il a fait 10 ans de prison sous les nazis, que ce n'était pas un monsieur tout noir et un apparatchik qui n'avait rien fait. Et le sort qui a été fait à cet ancien chef d'État d'un pays qui avait dénazifié, où il y avait des beaux services publics et pas seulement du malheur, mon père a considéré, comme beaucoup de ses amis, que c'était indigne. Plus sérieusement, c'est bon du point de vue génétique, je vous assure, de ne pas changer d'idée. Alors si c'est pour défendre le Führer, évidemment, c'est méprisable et ridicule. Mais quand l'Union soviétique a disparu de la carte, on crut à 80, à 85 ans qu'on leur avait menti pendant toute leur vie, on mangeait leur chapeau, désespérés parfois. Je les ai vus vieillir en 15 jours, d'une dizaine d'années. Ceux qui ont considéré qu'ils étaient vaincus, mais qui ne s'étaient pas trompés fondamentalement, et que si on voulait voir ce que c'était que le capitalisme, ou le revoir, bah on allait le revoir, et que ça reviendrait... l'envie de révolution, ou en tout cas le dégoût qu'inspire cette société, ben je crois qu'ils avaient raison sur le fond. Sur le long terme, et le long terme, vous avez vu, ça n'a duré qu'une vingtaine d'années. Bien sûr, l'extrême droite galope et monte beaucoup plus vite que des idées d'extrême gauche en ce moment en Europe. Mais enfin, qui pourrait nier que les dizaines de conflits sanglants qui sont là sur la planète en ce moment... que le délabrement effrayant du tissu économique européen, mais pas seulement européen, la crise qui est mondiale, si on peut dire, moins dans le Pacifique, beaucoup moins dans le Pacifique, en Chine, en Australie que chez nous, qui pourrait nier que tous ces dangers de guerre, que toutes ces politicailleries qui font que 60% des citoyens ne vont plus voter à certaines consultations européennes, les élections européennes de 2009, 60% d'abstention, si on fait la moyenne des 27 pays de l'Union, bah, qui pourrait nier que ce monde sans horizon, à l'évidence, ne va pas durer éternellement. Fascisme, révolution, guerre, on ne sait pas trop, mais on sent que quelque chose va venir. Alors oui, cette société, c'est mon dernier mot, c'est promis, je lui en veux pas horriblement, sous tout rapport, j'ai des amis, je suis heureux, pour mille raisons, nous avons des facilités que n'ont pas le milliard d'humains qui n'a pas l'eau potable à proximité, les 3 milliards d'humains qui n'ont pas l'électricité aussi simplement que nous, mais il va de soi que l'accroissement démentiel des inégalités entre diverses régions du monde et au sein de la plupart des pays de ce monde est générateur, à l'évidence, si on a fait un tout petit peu d'histoire, de cataclysmes, de guerres sociales et peut-être de guerres tout court. De toute façon, notre propre gouvernement essaie d'en faire une tous les ans en ce moment. Donc j'enfonce des portes ouvertes en rappelant cette situation.
Pour en rebondir, donc, l'intitulé de la conférence programmée donc, dans le cadre de l'UMA Café, c'est quoi la pertinence de la poser en termes d'actualité, de nouveauté ?
Oui, le bonheur est-il une idée neuve ? Ou toujours une idée neuve, je ne sais plus. Saint-Just, comme vous savez, a dit « le bonheur est une idée neuve en Europe », phrase...
Mais c'était en 1700...
...et sublime, en 1792 ou 13, j'imagine. Disons que l'horizon paraît tellement bouché, on parle tellement dans notre pays de la morosité, éventuellement de la nervosité d'une foule de nos concitoyens. Je crois qu'on dit que 7 millions de boîtes de psychotropes sont vendues chaque mois en France. Que ça valait le coup, je crois, avec l'aide des amis, des puissances invitantes et organisateurs, de se demander si on peut encore... et décemment en plus, parler de bonheur, et peut-être déjà, parce que les lendemains ne chantent pas nécessairement, mais il est évident que cette situation ne va pas durer. Elle peut durer 10 ans, 15 ans, elle ne va pas durer 50 ans. Donc il y a de la nouveauté à parler de l'utopie, à parler d'une société plus juste, plus fraternelle, et il y a beaucoup d'indices qui nous donnent raison, je crois, d'en parler déjà, même si c'est un peu prématuré vu le tableau sombre qui est devant nous.
Merci à Jean Salem, professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du « Bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps » paru aux éditions Flammarion dans la collection « Champs essais » pour sa libre participation à cette émission enregistrée avec la complicité de l'UMA Café de Nantes.